Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux, avec cette semaine évidemment Avatar, la voix de l'eau, Mon héroïne, Corsage, In Viaggio, Les années Super 8, Ernest et Célestine, Le voyage en charabie, Fièvre méditerranéenne et Despedida. Voilà, pour la programmation musicale, là j'ai pas trop eu le choix, c'est forcément dans Mon héroïne. On entend d'ailleurs pas mal de titres et assez variés. On va commencer par quelqu'un qui est très connu, c'est Clara Luciani et sa chanson « Respire encore » sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Non, d'ailleurs, c'est pas par elle qu'on va commencer, c'est par Kiss qu'on va commencer. Kiss, « I was made for loving you » sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. I was made for loving you. Kiss. Si vous êtes un fan de Kiss, eh bien, sachez qu'ils seront au prochain Hellfest. La programmation est tombée hier et j'ai vu ça. Et je sais que ça fait plaisir à notre journaliste qui est un gros fan de Kiss, Robin. Voilà, donc ce titre, on l'entend dans Mon Héroïne. Mon Héroïne, on en parle dans une petite dizaine de minutes. On va commencer, bien entendu, cette semaine avec Avatar, La Voix de l'eau, un film de James Cameron que vous pouvez voir au Méga CGR, au Colisée, au Pathé Quinconce, en VF, en VO, en 3D, pas en 3D, en ICE, en tous les cas au Méga CGR. Voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix. Il y a plusieurs séances par jour dans différentes salles. C'est un film de James Cameron, réalisateur, scénariste, producteur canadien. Mais oui, James Cameron est canadien, il est né en 54. Il a commencé par des courts-métrages et dire qu'il a commencé en 81 par un film qui s'appelait Piranha 2, les tueurs volants, co-réalisé. C'est un vrai brouillon dans sa carrière parce qu'ensuite, c'est que du lourd et même du très lourd. 84, c'est lui qui invente Terminator avec Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton. 86, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il fait Aliens, le retour avec Sigourney Weaver. En 88, Abyss avec Ed Harris et Michael Biehn. 91, Terminator 2, Le Jugement Dernier. Alors toujours Schwarzenegger, Linda Hamilton et Edward Furlong. Que de 94, la seule comédie véritable à son actif, c'est True Lies avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. 97, Titanic, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Jusqu'à maintenant... non, c'est pas jusqu'à maintenant, parce qu'Avatar l'a battu, c'était le film qui avait rapporté le plus d'argent de tous les temps. Mais non, Avatar l'a dépassé. Sinon, ensuite, à partir de 2002, eh bien, James Cameron fait des documentaires. Il est un fan absolu du monde sous-marin, et donc il s'intéresse à ça. Il fait des documentaires, Expédition Bismarck, en 2002-2003, Les Fantômes du Titanic, et en 2005, Aliens of the Deep. Et puis enfin, en 2009, Avatar, le premier Avatar, avec Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver, que l'on retrouve bien entendu dans ce nouveau opus Avatar, la voix de l'eau. Durée 3h13, se déroulant plus d'une décennie après les événements relatés dans le premier film, Avatar, la voix de l'eau raconte l'histoire des membres de la famille Sully, Jake, Naitiri et leurs enfants, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. Alors, la revue de presse Antoine Desrues, écran large, claque technologique et mythe moderne d'une densité folle. Avatar 2, La Voix de l'eau, est bien le miracle tant espéré. James Cameron a de nouveau signé un film monde, bouleversant, dont la portée philosophique devrait occuper longtemps, au moins jusqu'à Avatar 3. Michael Mélinard, L'Humanité. Le projet pharaonique est réussi avec ses préoccupations environnementales de préservation du vivant. Cameron signe une épopée de plus de 3 heures sidérante de grand spectacle, du grand spectacle qui rend métaphoriquement hommage à la beauté de notre planète bleue. Renaud Baronian, Le Parisien, ce spectacle familial hyper immersif où l'on voit défiler médusées, des images fantastiques d'une beauté irréelle et de sidérantes créatures aquatiques, doit beaucoup à son réalisateur, à son génie scientifique, son sens du romanesque et son amour des belles images. Adrien Gombeau, Les Échos. 13 ans après avoir signé le plus grand succès de l'histoire du cinéma, James Cameron propose une suite encore plus ambitieuse à travers le spectaculaire miroir de Pandora. Cameron ausculte les maux de notre terre, l'écologie et l'immigration, un conte humaniste et un très grand spectacle familial. Romain Thoral en première, au fond, Avatar 2 semble vouloir refonder à lui tout seul la notion même de grand spectacle hollywoodien. Et le moins qu'on puisse se dire, c'est qu'il sait montrer la voie. En voici le début, puisse-t-elle n'avoir jamais de fin. Jackie Goldberg, Les Inrecuptibles, deuxième volet tardif d'Avatar, bel hommage à l'action collective, offre un spectacle d'une clarté et d'une fluidité inédite. Alors vous allez me dire, mais tout le monde a apprécié sans restriction. Quand même, quelle petite restriction. Nicolas Scheller dans L'Obs, on en prend plein les yeux, en 3D bien sûr, et on retrouve ce qui a fait le succès du premier opus. On attendait toutefois un souffle nouveau dans le récit. Olivier De Bruyne dans Marianne, James Cameron, le grand ordinateur de la chose, y confirme son talent formel incontestable et signe une fiction impressionnante qui souffre néanmoins de ses longueurs, le film dure 3h12, et assène quelques grands, entre guillemets, messages assommants. Philippe Lemoine dans West France, visuellement le film est impressionnant, reste une interrogation, fallait-il dépenser autant d'argent pour parler d'amour, de migration et d'écologie ? Stéphane Dreyfus, La Croix, une ode lyrique à la nature, critique d'une vision anthropocentriste et spéciste qui s'inscrit toutefois dans l'air du temps et saura séduire la génération climat. Reste à savoir si celle-ci supportera les interminables courses-poursuites soporifico-aquatiques de Schtroumpf géant, comme les démêlés filiaux rebattus par d'autres sagas intergalactiques. Et enfin, Jacques Mandelbaum, Le Monde. Au rayon profit, on relève l'évidence, une grande saga familialiste pour les fêtes, côté perte. La surprise éventée, le scénario simpliste, les dialogues réduits à des clichés. Voilà donc ce qu'on peut dire sur Avatar 2, La Voix de l'eau. Le film est proposé, je le répète, au Méga CGR, au Pâté Quinconce et au Colisée. Alors si un film mérite bien l'expérience de la salle, c'est celui-là. Hein. Personnellement, moi je l'ai vu en 3D et en salle ICE. Et pour une fois, bah, cette technologie apporte un vrai plus. Je ne l'ai pas vu en VO parce qu'il y a très très peu de VO, bizarrement. Et ces VO sont souvent dans des copies sans 3D, etc. Bon bref, ça mérite vraiment absolument l'expérience de la salle. Sur le film, on va vite se retrouver à court de superlatifs pour le caractériser. Techniquement, c'est époustouflant. Visuellement, c'est hallucinant de splendeur. Et même scénaristiquement, là où j'avais quand même quelques doutes, ça tient globalement très bien la route. Notamment parce que le film emprunte à de nombreux genres et multiplie les références au film de Cameron lui-même, d'ailleurs, en particulier. Il y a des références à Titanic, il y a des références à Terminator, des références à Aliens, etc. L'histoire, on en dira peu, hein. On se retrouve quelques années après le premier Avatar. On y retrouve les mêmes personnages, y compris le méchant. Et pour ne pas patauger au début, je conseille quand même de lire une ou deux critiques complètes du premier film pour bien se remémorer les personnages et les situations. Et après, ça roule tout seul, franchement. Alors, on retrouve donc la famille Sully, Jake, sa femme et ses enfants qu'il a eus depuis le premier épisode. Et cette famille, eh bien, elle mène une vie paisible sur Pandora. Mais très vite débarque sur la planète le méchant Quaritch, le premier méchant du premier opus, bien entendu, hein, vu précédemment, et bien décidé à mettre la main sur Jake. Alors c'est le début d'aventures guerrières menées dans différentes régions de la planète Pandora, et plus particulièrement chez un nouveau peuple qu'on découvre dans Avatar 2, un peuple vivant en symbiose avec la mer. Alors on est absolument ébloui de bout en bout par la somptuosité des images, par l'inventivité permanente en matière de créatures, hein, c'est totalement exceptionnel franchement. Alors certes, on reprochera peut-être le côté un peu New Age du propos, oui, c'est sûr, oui. Le peu d'originalité des rapports entre les personnages, mais bon, ça ne sont que des peccadilles, à côté des séquences spectaculaires, les batailles, le bestiaire sous-marin, les promenades subaquatiques. On est vraiment dans un nouvel univers, tout en parlant des préoccupations du monde actuel, l'écologie, la préservation des espèces. Alors ça frise un peu parfois le gentillet, hein, le cucu, mais bon, beaucoup moins que je ne le craignais. Donc on a l'exaltation aussi de solidarité familiale. Alors c'est convenu, mais c'est pas finalement si pesant que ça sur l'ensemble des 3h12. Donc on a une véritable épopée avec une mise en scène magistrale. C'est un film qui est adapté à toute la famille à voir, même si vous n'allez qu'une seule fois par an au cinéma. C'est le film qu'il faut voir parce que c'est vraiment le film à voir en salle. Mais attention, hein, c'est long, hein. C'est long et il y a forcément quelques baisses de régime et quelques scènes superflues par-ci par-là. Mais globalement, moi j'ai vu des films d'une heure et demie où je m'étais quand même beaucoup plus ennuyé que dans ces 3h12 de Avatar. Alors il faut savoir que 3h12, il y a quand même 10 minutes de générique, hein, donc c'est 3h en fait. Mais ouais, ça change rien, ça, c'est quand même très long. Donc Avatar, La Voix de l'eau, Colisée, Méga CGR, Pâté Quinconce, 3D, pas 3D, VO, pas VO, enfin bref, tout ce que vous pouvez le choisir comme séance, et puis il n'y a pas de problème, pendant toutes les vacances, ça va jouer à fond. Ça commence d'ailleurs le matin de bonne heure, hein, souvent. Alors, deuxième film, alors là, c'est la contre-programmation absolue, c'est le petit film français, c'est Mon Héroïne. Mon Héroïne, c'est un film réalisé par Noémie Lefort. Noémie Lefort, réalisatrice et scénariste, et c'est son premier long-métrage, ça dure 1h48, c'est au Méga CGR et c'est au Pâté Quinconce. Voilà, alors, de quoi est-il question dans ce film d'une durée 1h48 ? Depuis son plus jeune âge, Alex, c'est une fille, hein, ne rêve que d'une chose, réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d'accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec l'aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou, donner son scénario à Julia Roberts. Vite rejointe par Mathilde, cette aventure new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d'une nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais. Candidat presse, eh bien West France dit que cette comédie, Mon Héroïne, est touchante et drôle. La Croix, Corinne Renoud-Nativelle, cette comédie bourrée de charme et d'énergie, inspirée de l'histoire de sa réalisatrice, raconte la passion d'une jeune femme pour l'actrice américaine et une soif insatiable de cinéma. Le Journal du Dimanche, un feel-good movie ultra référencé qui ausculte le conflit mère-fille avec sensibilité. Renaud Baronian, dans Le Parisien, si mon héroïne a les défauts d'un premier film, il a aussi le charme d'une comédie légère, sincère, et permet de découvrir une comédienne phénoménale, Louise Coldefy, sciente de naturel et de folie douce, dans le rôle de la tante Juliette. Nicolas Chalard dans L'Obs, le manque d'empathie pour le personnage interprété sans grâce par Chloé Jouanet n'aide pas non plus. Dommage pour Pascal Arbillot, attendrissante dans le rôle de la mère dépassée, et Louise Coldefy, très marrante en Tata Folding. Thierry Chédid en première, mon héroïne qui aurait gagné à être resserrée d'un bon quart d'heure, hein, ça dure 1h48, peine à trouver sa singularité sur cette thématique-là malgré un casting impeccable, en tête duquel Chloé Jouanet, Pascal Arbillot et surtout Louise Coldefy. Tout le monde a remarqué Louise Coldefy et je fais partie de ceux qui ont remarqué Louise Coldefy aussi. Alors, en fait, ce qui fait vraiment le prix du film, c'est que si c'est une histoire incroyable, eh bien, elle est quand même en grande partie vraie et on le découvre dans le dernier quart d'heure. Alors on peut le révéler parce que c'est abondamment relayé par la promo, ce qui permet de réaliser une subtile mise en abîme puisque la réalisatrice fait dans ce film le récit de sa propre vie. On a donc ainsi un parfait film autobiographique. Alors, puisqu'il raconte l'histoire de trois femmes. Alors, donc, c'est très girly, hein, comme film. Très girly, c'est trois filles. C'est donc Alex, qui a toujours, dès sa petite enfance, voulu réaliser des films pour tourner avec son idole de toujours, Julia Roberts. Mais pas simple quand on vit à Rouen et qu'on est issu d'un milieu modeste. Alors, après son bac, elle a postulé pour une école de cinéma à New York. Et contre toute attente, elle y est admise. Sauf que, à la suite d'un malencontreux concours de circonstances, elle l'apprend trop tard. Qu'importe, sur un coup de tête, elle décide de partir avec sa tante à New York pour proposer son scénario à Julia Roberts, rejointe très vite par sa mère, une vraie mère poule. Le trio va vivre donc un séjour mouvementé dans la ville qui ne dort jamais, comme on surnomme New York. Un film donc sur un rêve d'enfant et aussi un film sur les relations mère-fille, tante-nièce, où la complicité et l'amour qui les unissent font qu'aucun obstacle n'apparaît insurmontable. C'est un film aussi sur la fascination qu'exerce toujours l'Amérique et New York sur les Français. En particulier, cette jeune fille pleine d'audace, pleine de doutes à la fois, cette jeune fille, eh bien, elle sent vraiment, cette escapade à New York sent vraiment le vécu par plein de petites notations pour être allée à New York plusieurs fois il y a quelques années de cela. On retrouve vraiment des choses sur le comportement des Américains, sur leur enthousiasme délirant à tout propos pour un oui ou pour un non. Tout ça, on le retrouve bien. Donc, c'est... C'est un exemple parfait de vrai feel-good movie à la française. Un petit peu trop long tout de même, mais c'est plein d'enthousiasme et notamment de l'enthousiasme dont fait preuve les trois actrices et surtout donc Louise Coldefy. Donc le film, longtemps et pendant sa durée d'1h48, il est un peu gentillé, mais dans le dernier quart d'heure, et les images du générique de fin, eh bien, c'est un vrai régal finalement. En tout cas, c'est un film qui devrait plaire à un public féminin qui se retrouvera sans doute dans ses relations entre les personnages.
Moi, je suis pas trop féminin, mais je l'ai aimé quand même.
Ben oui.
Une comédie légère, drôle parfois dans les situations et aussi dans les dialogues. Une sorte de conte de fées qui arrive à point nommé juste avant Noël. Mon héroïne, c'est Julia Roberts. Enfin, pas moi, c'est le titre du film. Julia Roberts, qu'on ne voit pas dans l'histoire, elle aurait sûrement coûté trop cher.
Ah oui.
Enfin, si quand même, on l'aperçoit dans des extraits de films. Chloé Jouanet, jeune actrice et fille d'Alexandra Lamy, dans la vie,
exactement,
se débrouille très bien aux côtés de Pascal Arbillot et Louise Coldefy, qui moi j'ai aimé aussi, moi, qui joue respectivement sa mère et sa tante. Brigitte Fossé apparaît un petit peu juste au début du film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film sympathique et distrayant, qui plus est, tu l'as dit, Michel, tiré d'une histoire vraie qu'a vécue la réalisatrice Noémie Lefort.
Voilà, donc c'est un film qu'on vous recommande, ma foi. C'est la contre-programmation absolue par rapport à Avatar, parce que c'est tout un film modeste, hein, mais, ma foi, agréable, très agréable.
Oui.
Bien, et ben dans ce film, on entend Clara Luciani, la voici, Clara Luciani, que je vous ai annoncé tout à l'heure, Respire encore sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Flow.
Clara Luciani respire encore, on l'entend ce titre dans Mon héroïne. Corsage. Corsage, c'est un film qui est proposé par les cinéastes, 2 séances par jour, réalisé par Marie Kreutzer, réalisatrice, scénariste, monteuse autrichienne née en 1977. C'est son premier long métrage distribué en France, mais elle a à son actif 3 films déjà et qui sont inédits. Sous nos latitudes. Corsage, ça dure 1h53. On est à Noël 1877. Élisabeth d'Autriche, Sissi, fête son 40e anniversaire. Première dame d'Autriche, femme de l'empereur François-Joseph Ier, elle n'a pas le droit de s'exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ses attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d'exercice, de coiffure et de mesures quotidiennes de sa taille. Étouffée par ses conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. Michel Auriau dans West France parle d'une interprétation impeccable de Vicky Krieps. Je ne sais pas si on dit Krieps ou Krieps. Krieps, parce qu'elle n'est pas anglaise, elle est luxembourgeoise. Donc c'est peut-être Krieps.
Oui, tout à fait. Oui.
Chloé Chanamian dans Écran large, Marie Kreutzer et Vicky Krieps réinventent habilement l'histoire si connue et si romanisée de Sissi, l'impératrice, en lui permettant d'échapper à son tragique destin le temps d'un film. Eric Neuhoff dans Le Figaro, un biopic très culotté de Marie Kreutzer qui se distingue par sa force et son originalité. Alors, un biopic, il ne faut pas exagérer, c'est un an de la vie de la fameuse Sissi. Jackie Bornet, Les Échos, un film à la beauté glaciale et mélancolique porté par une interprétation souveraine de Vicky Krieps. Je dis Krieps après tout. Camille Nevers, Libération, dans un film brillant et austère avec Vicky Krieps dans le rôle de l'impératrice. Marie Kreutzer scrute l'enveloppe corporelle d'une femme domptée jusqu'à l'asphyxie. Isabelle Magny dans Télé 7 jours, c'est âpre, romanesque, plein de vitalité et ça vous laisse KO. Céline Roudin dans La Croix, Vicky Krieps incarne une impératrice vieillissante dans un film qui déconstruit avec modernité et jubilation un mythe cinématographique. Le Monde, Véronique Coapé dans Corsage, on voit donc Sissi, Vicky Krieps, dit quitter un dîner officiel en faisant un doigt d'honneur, traiter le valet de son mari de gros connard, couper sauvagement sa longue chevelure, fumer cigarette sur cigarette, séduire à tout va. Le geste, hélas, provoque un sentiment de déjà-vu. Cahier du cinéma, Charlotte Garçon, filmé par un jeune opérateur qui vient lui montrer l'invention du cinématographe. Elisabeth peut bien dire merde face caméra, le film restera muet et Corsage aussi anodin que cette anecdotique rébellion. Voilà, ça s'appelle donc Corsage, c'est proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour. Alors on pourrait résumer le film avec une formule, si Sissi s'ennuie, le spectateur aussi.
Ah.
Ouais. Je ne suis pas d'accord avec les critiques, moi, du tout. On est plongé dans l'intimité d'Élisabeth d'Autriche, donc la fameuse Sissi, épouse de l'empereur François-Joseph. Le film court sur une durée de 1 an, 1 an et demi, 2 ans de la vie de cette femme à l'époque de ses 40 ans. Le film évoque une femme dépressive qui n'assume plus son statut d'épouse d'eux, avec tout ce que cela comporte d'obligations, de protocoles, d'apparences. Alors ainsi, elle cherche à échapper à tout cela par tous les moyens. Elle voyage à l'étranger, elle utilise des sosies, elle se drogue. Voilà, cela a-t-il un intérêt ? Pas franchement, pas franchement. Alors certes, on est très loin des jeunes années de la reine incarnée jadis par Romy Schneider dans des puddings sucrés et mièvres qui repassent régulièrement à la télévision les après-midi pluvieux. Ici, on a affaire à la femme adulte qui se rebelle à sa manière contre la place qui lui est dévolue à la cour, à savoir un rôle essentiellement de représentation sans avoir un mot à dire. Vicky Krieps l'incarne avec talent, faisant parfaitement passer sa neurasthénie à l'écran, mais cela ne suffit pas à faire de Corsage un film vraiment digne d'intérêt. Quant à la réalisatrice, on ne voit pas trop ce qui justifie certains anachronismes. Certains vous ont cité le doigt d'honneur, des choses comme ça. Oui, on ne voit vraiment pas. Alors, bon, le pseudo-féminisme d'une femme qui, parce qu'aristocrate, pouvait se permettre des choses que les femmes de son temps ne pouvaient pas, c'est d'accord, mais bon, c'est Marie-Antoinette aussi pouvait se permettre des choses que les femmes de son temps ne pouvaient pas se permettre. Alors, bon. Je trouve que c'est un peu... c'est vraiment du féminisme... bref. Bon, qu'est-ce qui... En plus, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut justifier la fin qui est complètement inexacte de la vie d'Élisabeth. Alors, c'est peut-être métaphorique, parce qu'on la voit, je vous le dis, on la voit se jeter d'un bateau, et donc, en se jetant d'un bateau en pleine Méditerranée, elle a toutes les chances de mourir noyée, alors qu'elle n'est pas du tout morte comme ça, elle est morte dans un attentat. Donc, il y a peut-être une métaphore, là, quelque chose qui m'échappe, peut-être que ça n'est qu'un fantasme, je ne sais pas. Enfin, bref, peu importe. Enfin... Personnellement, je me demande qui peut être ému par le destin de cette femme ultra privilégiée, qui peut être ému de sa névrose, de sa pseudo-rébellion contre un ordre établi auquel elle participe d'ailleurs sans y renoncer. Hein, on pouvait tout à fait abdiquer. Hein. Alors peut-être le public féminin sera plus indulgent que moi, mais je vois guère en quoi il pourrait se projeter dans ce destin de Sissi, Élisabeth d'Autriche. Corsage, bon, bref. C'est au cinéaste, 2 séances par jour. Tout comme au cinéaste, on peut voir In Viaggio. In Viaggio, c'est un documentaire de Gianfranco Rosi, réalisateur, producteur, directeur de la photo italienne. Et en 1963, il a à son actif plusieurs documentaires jusqu'à maintenant. Donc en 2000, Below Sea Level, un documentaire qui a dû plaire beaucoup à James Cameron, hein, vu le titre. 2010, El Sicario, chambre 164. 2013, Sacro GRA, documentaire là aussi. 2016, Fuoco a Mare, par-delà Lampedusa. Et 2020, Notturno, documentaire aussi. Donc vous voyez, c'est un documentariste, Gianfranco Rosi. Et In Viaggio, dure 1h20, est proposé avec une seule séance par jour au cinéaste. En 2013, pour son premier voyage, le pape François se rend sur l'île de Lampedusa où il fait appel à la solidarité avec les migrants. Depuis le début de son pontificat, il a déjà visité 53 pays, s'exprimant tour à tour sur la pauvreté, la dignité, le climat, l'émigration et la condamnation de toutes les guerres. À travers un montage d'archives, Gianfranco Rosi retrace l'itinéraire du pape, témoin de la misère du monde et toujours plus conscient des limites du réconfort de ses paroles. Michael Mélinard dans L'Humanité, le film est passionnant parce qu'il raconte de l'intense activité d'un chef religieux qui a pris les rênes en pleine crise de foi de ses fidèles. Depuis, il est contraint à un mouvement perpétuel pour aller à la rencontre des foules, redorer le blason de l'Église et reconnaître les erreurs passées. La rédaction de La Croix, au-delà du saisissant portrait sans commentaire d'un pape globe-trotteur, Rosi parvient à travers un fil conducteur à travers les pérégrinations... Rosi parvient à tracer un fil conducteur à travers les pérégrinations d'un homme en blanc, allant à la rencontre des misères du monde, décidé à voir en face les conséquences de la guerre, des divisions et de la haine. Le journal du dimanche, curieusement édifiant et rassérénant, un programme d'utilité publique au-delà de toute croyance. Première, Chiriches in Viaggio mêle images d'archives de ses voyages, moments tournés par Rosi lui-même, et interview ou discours du pape dans un geste d'une limpidité sans faille, un grand film laïque. Mathieu Macheret dans Le Monde, sans distance possible avec son sujet, le cinéaste n'échappe pas toujours au registre apologétique. Le Figaro, ni un film, ni un documentaire, mais une suite presque brute d'images, de discours de François, parfois émouvantes, mais seulement guidées par les thèmes les plus politiques de ce pape, progressiste et de plus à gauche, et des plus à gauche, selon Rosi. Un regard froid, graphique, réducteur, horizontal, qui n'a rien à voir avec l'âme flamboyante de ses voyages. In Viaggio, je n'ai pas vu, ça dure 1h20, c'est au cinéaste. Je pense qu'il faut être très très fan du pape pour aller le voir, ce film-là. Bon. Bref, c'est pas mon cas. Les années Super 8, là, il faut être très fan de Annie Ernaux, et ça n'est toujours pas mon cas. Les années Super 8, c'est un documentaire, là aussi, mais d'une durée de 1h01, proposé par les cinéastes, avec 1 ou 2 séances par jour. En revoyant nos films Super 8 pris entre 1972 et 1981, il m'est apparu que ceci constituait non seulement une archive familiale, mais aussi un témoignage sur les goûts, les loisirs, le style de vie et les aspirations d'une classe sociale au cours de la décennie qui suit 1968. Ces images muettes, j'ai eu envie de les intégrer dans un récit au croisement de l'histoire, du social et aussi de l'intime, en utilisant mon journal personnel de ces années-là. Ça, c'est ce que déclare Annie Ernaux, récent prix Nobel de littérature. Qu'en pense la presse ? Michael Mélinard dans L'Humanité, sa manière de se dévoiler est parfois fragile dans la diction, le filmage de son ex-mari parfois approximatif, et le grain d'image omniprésent tranche avec le piqué parfait auquel le cinéma et les téléphones mobiles nous ont désormais habitués. Pourtant, le film émeut et suscite de l'espoir avec le parcours exemplaire de cette transfuge de classe qui s'est trouvée en n'oubliant jamais les siens. Jérôme Garcin dans l'Obs, le résultat est saisissant, on y voit une jeune transfuge déclassée par l'eau, qui a tout pour être heureuse, mais qui ne s'en accommode pas et veut écrire pour, entre guillemets, venger sa race à mesure que son couple se décompose. Son œuvre à venir se compose. Ce film sépia aurait pu aussi s'intituler « Une illusion perdue ». Olivier de Bruy, Les Échos, comme dans Les Années, son chef-d'œuvre, mais avec des images. Annie Ernaux se raconte et raconte une époque. Dans toute sa complexité historique et sociale, les amateurs apprécieront. Clarisse Favre, Le Monde, certains connaissaient déjà l'histoire. Trouveront le disque un peu rayé à l'image du pull 70s orange et noir que porte l'héroïne. D'autres seront émus par cet essai qui documente l'éclosion de la chrysalide, devenue l'un des papillons les plus durables de la littérature française. Le Figaro, le transfuge de classe, alors sur le point de sortir son premier livre, Les armoires vides, porte un regard rétrospectif et mélancolique sur sa condition d'épouse et son mariage bourgeois à travers un texte en voix off. On attend l'adaptation en comédie musicale pour les fêtes. Oui, ça, c'est visiblement un peu ironique.
Ah, je pense. Oui.
Voilà, ben oui, ça s'appelle donc Les années Super 8. C'est un documentaire d'une durée d'une heure une et je ne suis pas allé le voir parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà, allez, hop, on passe à mon héroïne. Et mon héroïne, eh bien, dans le film, on entend Diana Ross. Diana Ross, I'm coming out, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et oui, c'est comme ça. I'm coming out, Diana Ross, que l'on entend dans le film Mon héroïne, Ernest et Célestine, le voyage en charabie. C'est un film d'animation de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger, tous deux réalisateurs. Ils avaient à leur actif auparavant, en 2016, Ernest et Célestine en hiver. Et puis, Jean-Christophe Roger a aussi à son actif un autre dessin animé qui, en 2010, s'intitulait Allez, raconte. Ernest et Célestine, voyage en charabie, s'est proposé au Pâté Quinconce. au Méga CGR et je crois bien aussi au cinéaste. Durée 1h19 pour ce film d'animation. Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique. Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. Françoise Delbecq dans Elle parle d'une merveille de film à voir en famille. Xavier Le Harper Lopes, l'écho que le scénario fait avec quelques tragiques réalités géopolitiques, trouve sa place dans cette fable engagée et formellement magnifique. Olivier Delcroix, Le Figaro, 10 ans après le premier film d'animation, l'improbable duo s'offre une nouvelle aventure pleine de charme et d'intelligence, un réjouissant cadeau de Noël. Véronique Coap et Le Monde, le récit intime se glisse dans les interstices d'une course assez folle, conduite avec beaucoup de tendresse, qui jamais ne cède à la facilité de l'action pure. Fabrice Leclerc dans Paris Match, joliment écrit, visuellement chatoyant, voilà un film d'animation pittoresque, savoureux et tendre, où petits et grands y trouveront largement leur compte. Laurent Gian dans Télé 7 jours, une jolie manière d'expliquer le totalitarisme aux moins de 10 ans, qui s'en foutent un peu d'ailleurs, mais enfin bon, positif, Bernard Genin, sur un scénario sans surprise, des retrouvailles néanmoins fort agréables. Nous n'avons pas vu Ernest et Célestine voyager en Charabie. C'est un film d'animation, c'est pour les fêtes, et on peut aller le voir au Méga CGR, au Pâté Quinconce, et je crois bien aussi au Cinéaste. Au Cinéaste, par contre, je suis sûr qu'on peut voir Fièvre méditerranéenne. Fièvre méditerranéenne, c'est un film de Maa Hadj, une réalisatrice, scénariste et dialoguiste israélienne qui avait réalisé en 2016 Personal Affairs. C'est donc son deuxième long métrage, ce Fièvre méditerranéenne. Je répète, proposé par le cinéma Les Cinéastes. Attention, il n'y a pas de séance tous les jours. La prochaine, c'est samedi. Ah non, c'est vendredi, il y en a une. Samedi, il y en a une, mais il n'y en a pas dimanche ni lundi. Attention, donc, si vous voulez voir cette Fièvre méditerranéenne. Walid, 40 ans, palestinien, vivant à Haïfa avec sa femme et ses deux enfants, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables. Jalal est persuadé d'aider l'écrivain en lui montrant ses combines. Walid, quant à lui, y voit l'opportunité de réaliser un projet secret. Michel Levieux dans L'Humanité, prix du scénario Un certain regard à Cannes 2022, Fièvre méditerranéenne de la réalisatrice palestinienne Maa Hadj, est un bel exemple de film poétique et politique. Thierry Chaise, West France, ce drôle de duo est au cœur du film de Maa Hadj, confirmant son talent à raconter le quotidien mouvementé de cette région avec un sens de l'humour burlesque qui rappelle le cinéma d'Elia Souleyman. Jacqueline Nakache dans Positif. Si Fièvre méditerranéenne a reçu le prix du scénario au Festival de Cannes, c'est sans doute moins pour son récit délicat, hésitant entre le rose et le noir, que pour le ton feutré avec lequel se construit le propos politique du film, dans une mise en scène à la fois discrète et savante. François Forestier dans L'Obs, beau film un peu lent, proche d'un mécanisme théâtral, mais très juste dans sa description d'un malaise civilisationnel. Je savais que j'allais pas y arriver du premier coup. Civilisationnel. Thierry Chasse, première, servi par une écriture au cordeau, Fièvre méditerranéenne raconte en creux un mal-être palestinien incapable de trouver sa place en Israël, mais sans que jamais la politique n'écrase le buddy movie, dans un exercice d'équilibriste finement exécuté. Le journal du dimanche, Baptiste Thion, la réalisatrice de Personal Affairs, signe une tragicomédie un peu rigide dans sa forme, mais maligne et très bien écrite. Le Monde, du suspense à basse intensité et des personnages attachants, mais l'ennui, c'est que la mise en scène très linéaire déroule un peu platement les rebondissements. Voilà, Fièvre méditerranéenne, un film proposé par les cinéastes. Attention, pas tous les jours, une seule séance, certains jours. Dernier film à l'affiche cette semaine, cette fois-ci on part au Colisée, c'est un film qui s'appelle Despedida, les réalisateurs sont deux, Luciana Mazzetto et Vinicius Lopez, tous deux brésiliens, réalisateurs, scénaristes et producteurs, ils ont à leur actif déjà un premier long métrage en 2020 qui s'appelait Irma. Alors, de quoi est-il question dans Despedida ? La nuit, par la fenêtre de la maison familiale, Anna, 11 ans, voit le fantôme de sa grand-mère entrer dans la forêt. Quand elle décide de la suivre, elle découvre un monde de fantaisie et de mystère, avec des sorcières, des créatures étranges et surtout un chien sauvage qui garde le passage vers ce monde fantastique. Alors la presse, eh bien l'Obs, François Forestier, les deux réalisateurs utilisent toute la palette technique disponible, animation, live, effets spéciaux, musique, et créent un univers charmant et terrifiant. Seule réticence, l'interprétation de la jeune actrice, parfois un peu raide. Le Figaro, malgré la léthargie qui embrume le film, les cinéastes brésiliens se débrouillent joliment avec leur budget et offrent plusieurs beaux tableaux à leur fable onirique. Féerique à défaut d'être fabuleux. Première, Thomas Borrez, si le film se perd dans les méandres de son propre univers foisonnant, la beauté sensible emporte tout, une bien belle surprise. Télérama enfin, Hélène Marzoff, une mignonne leçon d'initiation qui célèbre le pouvoir de l'imaginaire et le courage enfantin capable de faire éclater les non-dits et de résoudre les conflits. Ça s'appelle Despedida, c'est au Colisée et bien entendu, enfin pas bien entendu, mais c'est présenté en VO. Voilà, bien. Eh bien, pause musicale avant de nous annoncer les films des 15 prochains jours. Dans le film Mon héroïne, on entend à plusieurs reprises un groupe qui s'appelle Pur Sang, qui reprend d'ailleurs plusieurs des chansons que j'ai citées. Et là, ils reprennent Rise and Fall sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Ce n'est pas la version avec Sting, c'est Rise and Fall, Pur Sang, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Sometimes in life you fear the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes stated, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Rise and Fall, la version de Pur Sang que l'on entend dans le film Mon héroïne et non pas la version de Sting. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dans les 15 prochains jours? Oui, parce que la semaine prochaine, Clap fait relâche. La semaine prochaine, il y a Tempête, un film de Christian Duguay que j'ai vu. C'est un film très bien pour les jeunes filles, notamment, qui sont fans d'équitation parce qu'il est question beaucoup de cheval. Et l'héroïne est une jeune fille qui doit avoir 12 ans. Donc, ça devrait plaire beaucoup à cette tranche d'âge. Le Petit Piaf de Gérard Jugnot, oui, ça a pas l'air, ça a l'air d'une histoire d'un petit chanteur pris sous son aile par Marc Lavoine. Par contre, ça, je suis sûr que Pierre et moi, on va aller le voir. C'est I Wanna Dance with Somebody, c'est le biopic sur Whitney Houston.
Alors j'ai un petit peu peur parce qu'il était annoncé au pâté, il y avait une grande affiche dans le hall et l'affiche a été enlevée. Alors,
non, mais il y sera.
J'espère.
Oui. Oui, il y sera. Mais bon, c'est pas forcément un bon film, mais on aura au moins la chance d'écouter les chansons de Whitney Houston.
Oui, et c'est une actrice qui chante, hein. C'est sûr. Un biopic.
Voilà. Le tourbillon de la vie devrait sortir également un film avec Lou Delage, Raphaël Personnage, Isabelle Carré. Et puis les cinéastes, alors vous proposeront Les 8 montagnes de Charlotte van der Mersch et Félix van Groningen. Attention, ça fait 2h27. Godland de Illinur Palmason, 2h23. Ah, voyons. Et Une femme indonésienne de Camilla Andini. Là, je ne sais pas combien ça dure. Et puis, il y a quand même Le Parfum Vert, un film français avec Sandrine Kiberlin, Vincent Lacoste, 1h41. Voilà, donc ça, c'est les films à l'affiche la semaine prochaine. Et puis, la semaine du 28, il devrait y avoir Cœur de Rocker, un film français, une comédie française, c'est pour les vieux comme moi. voilà, il y aura certainement aussi un film, alors ça je pense qu'il sera au cinéaste, Les Banshees d'Inisherin. Ça doit pas être mal ça, parce que c'est sélectionné dans plein de nominations pour les Golden Globes. Donc oui, il y a beaucoup de nominations, les acteurs notamment sont nominés, Colin Farrell, Brendan Gleeson, etc. etc. Il devrait y avoir également Megan, un film d'horreur. Ça, lui, on n'ira pas le voir. Et puis, La Passagère, qui devait sortir cette semaine, mais qui a eu certainement peur d'Avatar, qui sortira le 28. Bon, voilà, sur ces bonnes paroles, nous, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. On vous recommande Mon Héroïne.
Mon Héroïne, oui, tout à fait. Puis, je voudrais recommander aussi le film que je n'avais pas vu la semaine dernière, Les Bonnes Étoiles. J'ai trouvé ça excellent.
Ah bon, c'est parfait, bien. Et puis, il y a à voir absolument, si vous devez voir un seul film dans l'année en salle, c'est Avatar 2, La Voix de l'eau. Ne vous laissez pas rebuter par la longueur du film, 3 heures, mais c'est 3 heures absolument fabuleuses sur le plan visuel, technique et compagnie. Voilà, c'est les films qu'on vous recommande cette semaine. Nous, on se retrouve peut-être le 30, mais à coup sûr le 6 ou 7, je ne sais plus combien ça fait, à la rentrée. Bon, peu importe. Voilà, sur ces bonnes paroles, une excellente semaine et des fêtes de fin d'année excellentes pour vous. Voilà.
Très bon Noël, au revoir.
107.3 FM, le Mans, c'est des claps. Thank you.